On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Question bizarre. Un texte de la rédaction paru dans l'édition juillet-août du magazine Les Débrouillards. Tu te poses certaines questions et aimerais avoir des réponses. En voici quelques-unes. Comment naît le vent? Autour de toi, il y a de l'air. S'il est calme, il n'y a pas de vent. Mais quand l'air s'active, il vente. Le vent, c'est simplement de l'air en mouvement. Pourquoi cet air se déplace-t-il? Parce qu'il n'est pas à la même température partout sur Terre. Dans une région où le soleil est fort, l'air se réchauffe, ça devient plus léger et monte en altitude. Ça crée un vide aussitôt comblé par une autre masse d'air. Résultat, il vente. Dans quelle direction? Ça dépend. Dans l'hémisphère nord, les vents soufflent principalement de l'ouest vers l'est à cause de la rotation de la Terre. L'endroit précis où on se trouve influence aussi la direction et la force du vent. Faire voler un cerf-volant près d'une montagne, d'une mer ou d'une plaine, c'est bien différent. La Terre pourrait-elle avoir des anneaux comme Saturne? Oui, on pense même qu'elle en a déjà eu. Il y a 466 millions d'années, un astéroïde se serait désintégré en approchant de la Terre et ses débris seraient restés en orbite formant un anneau. Avec le temps, les débris seraient retombés sur Terre et l'anneau aurait disparu. Mais leur chute aurait créé des cratères. En 2024, des scientifiques australiens ont relié 21 cratères à ce probable ancien anneau de la Terre. La Terre pourrait-elle en avoir un à nouveau? Peut-être, mais dans très longtemps. Les petites planètes comme la nôtre ont moins de chances d'avoir des anneaux parce que les astéroïdes se désintègrent moins souvent autour d'elles. C'est tout le contraire pour les planètes immenses, comme Saturne. Pourquoi? Certaines crottes coulent-elles et d'autres flottent-elles? Cela dépend de l'activité de nos bons microbes. Dans notre gros intestin, des milliards de microbes nous aident à digérer. Ils produisent des gaz. La majorité de ces gaz sont évacués sous forme de pète. Mais une petite partie s'infiltre dans nos crottes. Plus elles contiennent de gaz, plus elles sont légères et flottent dans la toilette. Chaque personne a un cocktail microbien différent dans son intestin. Certains microbes produisent plus de gaz. Cela crée des crottes flottantes. Ce cocktail est en partie héréditaire. Il dépend aussi de ce que l'on mange et de notre environnement. Pourquoi les ongles poussent-ils plus vite sur les doigts que sur les orteils? Selon les scientifiques, il y aurait deux explications possibles. Premièrement, comme nos mains sont plus proches de notre cœur que de nos pieds, elles bénéficieraient d'une meilleure circulation sanguine. Cela avantagerait l'accès aux nutriments et à l'oxygène, favorisant ainsi la pousse des ongles sur les doigts. Et deuxièmement, les petits chocs quotidiens reçus par les doigts activeraient la circulation sanguine et favoriseraient la pousse des ongles. Nos orteils reçoivent moins de chocs parce qu'ils sont protégés par nos chaussures. Un ongle de doigt pousse en moyenne de 3,47 mm par mois et un ongle de pied de 1,62 mm. En hiver, pourquoi fait-il très froid quand il fait très beau? Aucun nuage à l'horizon. La neige scintille sous les rayons du soleil. Tu sors profiter du beau temps, mais la température est glaciale. Pourquoi? Parce que l'air froid contient moins d'humidité que l'air chaud. Et sans humidité, pas de nuages. Lors des journées froides, le ciel est donc plus dégagé. De plus, l'absence de nuages contribue au refroidissement de l'air, même si le soleil brille. En effet, les nuages agissent comme une couverture. Ils emprisonnent la chaleur et font augmenter la température au sol. Les animaux attrapent-ils des coups de soleil? Oui. Ça peut arriver dans des zones de peau non protégées par des poils, des plumes ou des écailles. Mais les animaux peuvent s'en protéger et chaque espèce a son truc. Les hippopotames sécrètent un liquide rose qui protège leur peau du soleil. Certains reptiles, poissons et oiseaux fabriquent du gadusol, une molécule qui absorbe les rayons ultraviolets, UV. Les éléphants s'enduisent de boue. Et beaucoup d'autres animaux restent tout simplement à l'ombre. Est-ce que les poissons pètent? Ah oui! Comme nous, les poissons hébergent dans leur intestin des microbes qui produisent des gaz. Ces gaz sont évacués par leur anus. Ça fait des bulles. Beaucoup de poissons possèdent aussi une poche d'air, la vessie natatoire, qui les aide à se maintenir toujours à la même profondeur dans l'eau. Certains l'utilisent même pour remonter à la surface comme une bouée. Pour redescendre, ils vident cette poche d'air en rotant ou en pétant. Des biologistes ont même émis l'hypothèse que les harengs communiquent entre eux en pétant. Pendant des années, l'armée suédoise a cru entendre des sous-marins russes jusqu'à ce que des biologistes comprennent qu'il s'agissait de pets de harengs. Comment fait-on pour assembler une grue? Il faut une grue pour construire un gratte-ciel. Mais pour ériger une grue, faut-il une autre grue? Oui et non. Pour rester stable malgré sa hauteur, une grue doit être solidement ancrée dans le sol à l'aide de blocs de béton. Il faut une deuxième grue, plus petite, pour transporter ces blocs. Mais ensuite, la grue n'a plus besoin d'autres grues. Le mât d'une grue est composé de plusieurs morceaux s'empilant les uns sur les autres, comme des blocs Lego. Pour ajouter des étages, la grue apporte des morceaux de mât vers le haut. Au sommet, des ouvriers assemblent le tout. La structure devient ainsi de plus en plus haute. Ingénieux. En route vers l'école. Un texte d'Ophélie Delaunay paru le 4 septembre 2025 dans les As de l'Info. Au Canada, le transport en voiture, en camion, en autobus et en avion produit plus de 150 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ça représente presque un quart des gaz à effet de serre rejetés dans l'air au pays. C'est vraiment beaucoup. Heureusement, il y a plusieurs solutions pour diminuer cette pollution. Par exemple, on peut utiliser des modes de transport durables pour aller à l'épicerie, rendre visite à nos amis ou aller à l'école. Découvrons de quelle façon des écoliers du monde entier se déplacent sans polluer. Les modes de transport durables ce sont des façons de se déplacer qui émettent peu ou pas de gaz à effet de serre. Par exemple, la marche ou la course, le vélo, la planche à roulettes, la trottinette, les transports en commun, autobus, train, métro, les véhicules électriques, le covoiturage, proposer à nos amis de voyager dans la même auto que nous. En route vers l'école. Au Canada, la majorité des élèves prennent l'autobus scolaire ou l'auto pour aller à l'école. Une petite partie marche et une toute petite partie utilise le vélo. Et ailleurs dans le monde? Ça varie beaucoup selon les pays. En général, les enfants qui vivent dans des pays plus pauvres vont à l'école en marchant, parfois sur de très longues distances. Ceux qui vivent dans des pays plus riches utilisent plus souvent un transport motorisé, même quand ils n'habitent pas très loin de l'école. Certains élèves utilisent des modes de transport étonnants pour aller en classe. Des écoliers du sud de la France se rendent à l'école en pédalant à bord d'un vélo-bus appelé « écolobus », alors que des écoliers du nord de la France font le trajet en charrette. Des enfants des Philippines, en Asie du Sud-Est, prennent le bateau. Et toi, avec quel mode de transport écolo et rigolo aimerais-tu te rendre à l'école? Un jeu vidéo québécois fait revivre le roi Arthur. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 14 septembre 2025 dans les As de l'Info. Yann Pepin avait 12 ans quand il est tombé sous le charme des légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. En grandissant, cet amour ne s'est pas essoufflé. Au contraire, le Québécois lancera bientôt un jeu vidéo basé sur ces histoires qui ont presque 1000 ans. Rencontre avec un passionné qui a marié technologie et parchemin pour réaliser un rêve. Qui sont les chevaliers de la Table Ronde? As-tu déjà entendu parler du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur ou de l'épée Excalibur? Tout ça vient de ce qu'on appelle les légendes arthuriennes. Ce sont des histoires fantastiques, popularisées dans les années 1100 en Europe, à une époque qu'on appelle le Moyen Âge. Yann, raconte-moi ta rencontre avec les légendes arthuriennes. J'avais 12 ans. J'ai vu le film Excalibur, qui raconte l'histoire du roi Arthur. J'ai ensuite lu les légendes. C'est devenu une passion. Ce qui me fascinait, c'est qu'il y avait un mélange de réalité. Les légendes se passent dans des lieux réels et de fiction. Plus tard, j'ai décidé d'étudier en jeu vidéo. L'idée de créer un jeu inspiré des chevaliers de la Table Ronde, je l'ai depuis plus de 20 ans. Le résultat, c'est le jeu de rôle Legends of the Round Table. Ça m'a pris 5 ans de travail. Il y a tellement de liens à faire dans ces légendes. Il y a la politique, la culture, les idéaux, les rêves, la littérature, la chevalerie. Je trouve ça incroyablement beau. En quoi c'est un jeu spécial? Avec les ordinateurs puissants d'aujourd'hui, ce n'est plus un défi de faire des jeux hyper réalistes qui ressemblent presque à des films, mais j'avais autre chose en tête. Dans Legends of the Round Table, je voulais montrer le Moyen-Âge coloré des parchemins de l'époque. C'est lumineux, pas gris, poussiéreux et sale. Pour nous rapprocher de ces images, nous avons travaillé avec un dessinateur spécialiste du Moyen-Âge. Ce sont ses dessins qui ont servi de base au visuel du jeu. Une autre particularité du jeu, c'est qu'on n'utilise que les couleurs qui étaient disponibles au Moyen-Âge. À l'époque, l'encre et la peinture étaient faites à la main. Et pour trouver les ingrédients, il fallait parfois partir à l'aventure pour créer un bleu particulier. Il fallait trouver une pierre précise qu'on mélangeait avec du mercure, par exemple. C'était un beau défi pour l'artiste qui a fait les illustrations. Il s'est procuré des pigments et a conçu ses propres mélanges pour obtenir les vraies couleurs d'époque. Même chose pour la musique. Ce qu'on entend, ce sont des musiciens qui jouent sur des instruments anciens. Ça donne quelque chose de nouveau, d'unique. Parle-moi de la narratrice. C'est un personnage qui a vraiment existé? Oui, c'est Aliénor d'Aquitaine. Elle a vécu dans les années 1100. Cette femme est devenue mon héroïne. Elle a eu une vie incroyable. C'est la seule reine qui a régné sur la France et l'Angleterre. C'est grâce à elle et sa fille que les légendes arthuriennes ont été mises par écrit en ancien français pour la première fois. C'est aussi possible de jouer une chevaleresse, c'est-à-dire une femme chevalier. Toutes les aventures du jeu sont tirées de textes originaux du Moyen Âge. Il y a une seule femme chevaleresse dans les légendes de la Table Ronde. C'est le chevalier Silence. On l'a incluse dans le jeu. Et toi, si tu devais incarner un personnage de légende du Moyen Âge, ce serait lequel? Philomaris. Faire de la philo sur un bateau? Un texte d'Ophélie Delaunay paru le 11 septembre 2025 dans les As de l'Info. 9 jeunes de Granby et de la Première Nation, Wolashokiyik Washipekuk, ont vécu une aventure vraiment spéciale. Pendant une semaine, ils ont navigué à bord de magnifiques voiliers dans le fjord du Saguenay. Entre paysages à couper le souffle et rencontres avec des baleines, ils ont aussi eu des discussions philosophiques sur la nature. Embarquons avec eux à bord de l'Écomaris. Salut, les philomarins! Alors, dites-moi comment se déroulent vos journées sur le bateau? Nos journées sont vraiment très occupées. On se lève, on mange, puis on aide l'équipage à faire plusieurs tâches sur le bateau. Lever les voiles, plier les cordages, tenir la barre et même nettoyer les toilettes. On s'amuse aussi beaucoup. On se baigne et on fait des ateliers philo. À bord de l'Écomaris, tout le monde dort dans la même pièce. Chaque passager a sa propre petite couchette. Tout le monde s'entraide et participe aux tâches. Ici, on voit un des philomarins en train d'enrouler un cordage avec Edwidge Chirouté. Cette professeure d'université française fait des recherches sur la philosophie pour les enfants. Parlez-moi de ces ateliers philo. Ça consiste en quoi? Ce sont des discussions qu'on a tous ensemble, parfois dehors, le jour ou le soir, ou même en mangeant. On parle de la nature et on réfléchit aux raisons pour lesquelles on doit la protéger et à la meilleure façon de le faire. C'est super intéressant. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'après chaque atelier, on a très faim. On pourrait dire que se creuser la cervelle, ça creuse l'appétit. Les philomarins parlent de philosophie avec les responsables du projet, Arnaud Gagneur, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, et Mathieu Gagnon, de l'Université Laval à Québec. La lumière est rouge pour que les marins voient à l'intérieur tout en restant capables de bien voir dans le noir quand ils sortent à l'extérieur. Vous avez rencontré un gardien du territoire autochtone. De quoi vous a-t-il parlé? Oui, c'est Daniel, un gardien du territoire de la Première Nation, Olastokiyik Washipekuk. Il est venu nous parler du fjord du Saguenay, de tout ce qui y vit, des baleines. Il nous a aussi expliqué des traditions autochtones. On a même fait un rituel de purification en faisant brûler un peu de sauge et de tabac pour éliminer les mauvaises ondes. Daniel nous a aussi offert une pochette qui contient des herbes qu'on peut offrir à la nature, par exemple pour la remercier d'avoir passé une bonne journée. Qu'avez-vous préféré de ce séjour? C'était extraordinaire. L'équipage, les profs, tout le monde était génial. Se faire de nouveaux amis, c'était vraiment super. On a aussi adoré observer des mammifères marins comme les baleines et les phoques. Et les paysages étaient magnifiques. Un de nos moments préférés, c'est quand on est arrivé dans la baie de Tadoussac. L'eau était calme, l'air était frais, le soleil nous réchauffait et il y avait plein de bélugas. C'était un moment magique. On se sentait en harmonie avec la nature. Avez-vous un message à transmettre aux As? Notre message, c'est qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles choses et que la philosophie, c'est pas facile, mais c'est super cool. C'est vraiment important de savoir ce que c'est parce que ça aide dans la vie. Pendant les ateliers, les philomarins ont appris 3 règles d'or. 1. Observer. Soit les autres, son environnement. 2. Réfléchir à la situation observée pour la comprendre. 3. Trouver des solutions et agir. Par exemple, si on observe qu'il y a de la pollution quelque part, on essaie de comprendre de quoi il s'agit, d'où elle vient, on tente de trouver une solution pour éliminer cette pollution et on l'applique si on le peut. L'autre message, c'est que la nature est vraiment pleine de trésors. Et passer des bons moments dans la nature, ça nous donne plus envie de la protéger. Alors, allez jouer dehors le plus souvent possible, les As. Est-ce que tu as déjà vécu un moment merveilleux dans la nature? Raconte-moi. L'histoire peu banale de Gina Boubar, Miss Autochtone Canada. Un texte de Clémence Tessier, paru le 6 septembre 2025 dans les As de l'Info. Aujourd'hui, je te présente une autochtone de 24 ans du nom de Gina Boubar. Elle fait partie de la Première Nation Sakin-Anishinaabe au Manitoba. Et si je te parle d'elle, c'est parce qu'elle a gagné un concours bien spécial que tu ne connais peut-être pas encore. Lequel? Miss Autochtone Canada 2025. Je te raconte tout ici. C'est quoi Miss Autochtone Canada? Contrairement à certains concours de Miss qui ont lieu à travers le monde, Miss Autochtone Canada n'est pas un concours de beauté. C'est un concours qui aide les jeunes autochtones à avoir confiance en eux, à contribuer à leur communauté, à célébrer leur culture et à se faire de nouveaux amis pour la vie, explique Gina. Autrement dit, c'est la beauté intérieure qui compte. Cette année, 19 participantes se sont inscrites au concours. Pour être qualifiées, elle devait passer par plusieurs étapes, écrire une dissertation, préparer un scrapbook pour présenter leur engagement auprès de leur communauté et faire une présentation sur leur culture. Ce n'était pas vraiment une compétition, raconte Gina. On s'est sentis très unis entre participantes. une expérience inoubliable. Pendant le concours, Gina a choisi de parler d'une initiative qu'elle a lancée dans sa communauté. Cette année, j'ai créé le tout premier comité de la fierté à Sagking, dit-elle. La fierté, c'est un mouvement qui célèbre les personnes LGBTQ+, et qui rappelle que tout le monde a le droit d'être respecté et aimé tel qu'il est. On a aussi organisé la toute première marche de la fierté. Au début, c'était difficile de trouver du soutien. Mais quand j'ai partagé mon histoire personnelle, les gens ont commencé à comprendre. Même mes parents ont appris avec moi. Pour sa présentation culturelle, elle a choisi de présenter le drapeau de la fierté bispirituelle. Son but? Montrer que toutes les identités méritent d'être célébrées. Il y a tellement de diversité parmi les peuples autochtones, explique-t-elle, je pense que c'est important de la mettre en valeur. Une couronne et un message. Miss Autochtone Canada est un concours tout récent. Il existe seulement depuis 2 ans. Et le 26 juillet dernier, Gina est devenue la première personne bispirituelle à le remporter. Quand j'ai entendu que j'avais gagné, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une erreur, plaisante-t-elle. Pour moi, le concours était surtout l'occasion de sensibiliser les jeunes bispirituels. Je voulais leur dire qu'ils peuvent être fiers de qui ils sont. Et son message pour les jeunes qui doutent parfois d'eux-mêmes ou de leur identité est clair. Sois toi-même. Il y aura toujours des gens et des communautés prêts à t'accueillir et à te soutenir. Être unique, c'est un super pouvoir. Tout comme ta curiosité, cher As. Et toi, qu'est-ce qui te rend unique? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.